Moi, je viens d'une grande famille bourgeoise du Puy-en-Velay, qui a ses heures de gloire et ses membres de gloire. Pour l'anecdote, j'ai une cousine qui s'appelle Mazarine Pinjot, puisque j'ai une tante qui s'appelle Anne Pinjot, que j'ai eu des oncles qui s'appelaient les Chaumet, qui ont fait de la tôle parce qu'ils étaient bijoutiers à Paris, place Vendôme, et qui... Ils ont magouillé avec le Shah d'Iran et le roi du Maroc et tous ces gens-là. Mais enfin bref, c'est pour l'anecdote, c'est rigolo. Ça situe un petit peu le milieu dans lequel moi je suis né. Sauf que du côté de mon père, on a un petit peu basculé sur une classe moyenne, entre guillemets. Bon, mais, venant du Puy-en-Velay, qui est un des... où je n'ai pas vécu, hein, où je n'ai pas vécu, mais ma grand-mère habitait au Puy. Donc on y allait souvent. Je viens quand même d'un milieu extrêmement catholique. Et j'ai été, pour ainsi dire, shooté au catholicisme. J'en ai bouffé le matin, le soir, à midi, bénicité, machin, truc bidule. Ce qui a créé chez moi pendant très longtemps une espèce de révolte. Et puis quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai eu quand même besoin de me laver, quoi. De me laver de tout ça, de me laver de cette éducation-là, de ce milieu-là, de ces sources-là, de ces origines-là. Donc je me suis lavé, je passe sur les détails, parce que je n'y suis pas allé de main morte. Il y avait un grand décrassage à faire. Donc voilà, c'est... De ça aussi est né quand même... Peut-être ce qui fait la spécificité de ce travail-là, hein, aussi cette dualité-là, cette ambiguïté-là. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, dans ton travail, il y a une dimension religieuse, une fois de plus, apprendre entre guillemets, un petit côté mystique. Moi, ça me gave un peu, ce côté-là, je dois dire, cette manière de voir les choses. Mais c'est vrai qu'il y a un côté christique quand on voit tous ces cure-dents plantés dans ces tissus, les bouts qui sont sur le mur, ou ces espèces de simili-corsets ou de textures de peau. C'est vrai qu'il y a un côté christique, mais il y a aussi un côté junkie. Hein. Il y a aussi un côté. Donc, une fois de plus, c'est une vie toujours sur la frontière. Moi, j'ai l'impression de passer ma vie sur la frontière, sur des frontières. Ça a les avantages et les inconvénients, c'est que on reste libre. Si quelque part ça nous gave, on se casse, quoi, puisqu'on n'appartient à rien. Moi, je n'appartiens pas à un groupe, à un système de pensée, à une idéologie, à une manière de faire. J'essaye de garder mon individualité, mon intégrité, et de me donner la possibilité aussi de partir quand je le peux, quand je le veux, avec toute la fluidité possible. Il y a une fluidité aussi dans mon travail, c'est assez bizarre, mais il y a quelque chose de fluide. Là, il y a beaucoup de lumière, mais quand on éteint la lumière, qu'on laisse que les projecteurs sur le travail, on a l'impression que tout flotte. Alors, ceci explique aussi peut-être cela. Et puis bon, je suis aussi un ancien joueur de rugby, donc de temps en temps, les cadrages débordent, je me les autorise, et puis j'aime bien mettre les choses dans le vent, quoi. Donc ça, c'est un truc. Ouais. Et ça explique un petit peu mon parcours, mon enfance. J'ai aussi beaucoup vécu dans la forêt, je crois que j'en ai parlé beaucoup. Parce que dans mon enfance, ma grand-mère avait des maisons dans le Cantal et dans la Haute-Loire, qui étaient des maisons complètement isolées, en pleine forêt. Et je dois dire que peut-être, encore une fois de plus, pour en revenir à mon travail, et je l'ai vérifié l'autre jour sur une expo où j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a fait un éclairage, j'ai retrouvé ces sensations-là que j'avais quand j'étais gamin, de rayons de lumière, de soleil qui filtrent à travers les arbres, à travers la brume aussi, les brumes du matin dans les forêts, quand le jour se lève, quand on se promène dans le silence, et qu'on a toute la lumière qui est striée avec les ombres et tout ça. Il y a aussi en effet ce côté, ce côté un peu minéral, végétal, ces ambiances-là dans mon travail. En fait, quand on en parle de mon travail, on s'aperçoit qu'il va dans toutes les directions possibles et inimaginables, et qu'il est tenu quand même malgré tout sur un fil, sur une force, mais qu'après, on est un peu comme dans le loup des steppes d'Hermanès, hein, il y a 1000 portes d'un côté, 1000 portes de l'autre, donc on les pousse, et puis elles vous conviennent, elles ne vous conviennent pas, mais en tout cas, on les possède aussi en nous-mêmes. Donc c'est aussi peut-être pour ça que beaucoup de gens sont touchés par ce travail-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, qui n'aime pas tellement faire de l'introspection personnelle, je peux peut-être aussi arriver à expliquer mes origines, ou en tout cas à ressortir mes origines en étant à l'écoute de ce travail-là, ce qui a à la fois un côté très personnel, donc qui ne peut m'intéresser que moi, mais quand je discute avec les gens, je m'aperçois que quelque part ça les touche aussi. Il y a quelque chose, ils se reconnaissent aussi dans cette histoire-là, même s'ils n'ont pas du tout le même parcours que moi, même s'ils ne sont pas du tout issus de la même origine que moi. En plus, moi je suis issu de cette origine-là, mais après, une fois que je suis parti, que j'ai quitté le domaine familial, que je suis rentré aux Beaux-Arts et de multiples aventures, j'ai vécu et je vis toujours chichement, hein, ça m'est arrivé de rentrer beaucoup d'argent et de le dépenser tout de suite, mais ça a été beaucoup plus rare dans ma vie. Moi, je pense que cotiser à la retraite, c'est un truc qui était tellement rare que il va falloir que je trouve un autre système. Et moi je suis, au niveau du statut, je suis érémiste, tout simplement érémiste, comme je crois 95 ou 90% des artistes en France sont érémistes. C'est pas un statut, c'est pas quelque chose de plaisant, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se reposer, c'est pas quelque chose qui nous permet de construire beaucoup. Et en plus, de nos jours, c'est quelque chose qui est de plus en plus menacé. On est de plus en plus... la dernière campagne électorale nous a bien fait comprendre que nous, les artistes, et je passerai... que nous, les artistes, et je ne pense pas qu'aux intermittents, parce que quand on parle du problème artistique, on ne parle que des intermittents et rarement des plasticiens, ce qui est fort dommage, parce que nous ne sommes pas du tout considérés, à part les quelques artistes qui vivent de l'institution, nous ne sommes pas considérés. Au niveau juridique, nous sommes considérés comme des professions libérales, ce qui me fait bien rire. Donc moi je subis le RMI, mais pour l'instant j'ai pas la possibilité de faire autrement. Heureusement que je l'ai un petit peu. Heureusement que de temps en temps il est là, parce que moi je bosse beaucoup aussi quand même à côté. En tout cas, avant que j'arrive à Nantes, j'ai beaucoup bossé. Je bossais avec des archis qui travaillaient sur des gros musées à Paris, en province ou ailleurs, pour installer des expos. Et donc moi j'allais bosser un mois avec eux, puis je me faisais plein d'argent, et ça me permettait de vivre 4-5 mois comme ça. Et puis je travaillais aussi sur des campagnes de sensibilisation au tri du déchet, mais clairement, enfin comme tout le monde, trouver plein de machins pour gagner du fric, et puis pour se mettre un peu tranquille pendant 4 mois pour se consacrer à son travail. Oui, le RMI, quoi. Le RMI, vaste sujet, vaste débat, mais comme la maison des artistes est un vaste sujet, vaste débat, quelque chose qui a jamais été remis en question, qui a jamais été reposé, qui est basé sur des choses qui datent de Mathusalem et qui, à l'heure actuelle, sont pas réactualisées parce que l'activité artistique d'aujourd'hui ne correspond plus à ce statut je crois que je ne suis pas le seul, on est presque tous pareils, logés à la même enseigne par rapport à ça. Personne n'y comprend rien, personne ne sait ce que c'est, on navigue dans le flou, on navigue dans le délire le plus total par rapport à ça, juridiquement, économiquement, politiquement. Et statuairement, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, statuairement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à prendre en charge. Voilà, moi je ne déplore qu'une seule chose, c'est que le monde artistique est tellement divisé à l'heure actuelle qu'il ne veut pas se donner les moyens de réfléchir sur cette question-là. Et c'est dommage parce que il y aurait beaucoup à faire. On est une masse, on est une force, on représente une économie aussi, on représente un pouvoir, on représente un poids. Il y a beaucoup de gens qui se servent de nous, enfin peut-être pas nous, mais beaucoup de gens qui se servent de l'art et des artistes. Et à côté de ça, personne ne veut réfléchir sérieusement à notre question. Et en plus, nous, les artistes, on fait pas pression suffisamment pour qu'on réfléchisse réellement à notre question. Donc voilà, il y a un problème. Et moi, je le subis aussi, ce problème-là. Je le subis aussi dans mon atelier. Je le subis à l'extérieur, quand je fais une expo, ou même quand je rencontre des gens et qu'on parle du problème artistique et tout. Et puis chacun avec ses propres sensibilités ou quelle que soit sa direction politique, on est sans arrêt confronté à ce problème-là. Et on a de plus en plus du mal à se dépatouiller avec cette histoire-là. Donc voilà, moi c'est mon point de vue, mais un jour ou l'autre, il va falloir quand même réellement réfléchir à cette question-là, sous peine de voir disparaître le mot culture, à part la culture zénith ou la culture officielle, dogmatique. La France est déjà suffisamment dogmatique comme ça, c'est pas la peine de la pousser encore plus loin, quoi. Dogmatique et corporative, il faut que ça change au niveau du monde culturel, au niveau du monde de l'art, il faut que ça change, quoi. Et il y a peu d'artistes qui réagissent par rapport à ça. Bon, ils prennent position philosophiquement dans leur travail, ils pensent un peu le monde pour tout le monde à l'heure actuelle, que ce soit sociologiquement, économiquement, philosophiquement. Les artistes pensent beaucoup pour le monde, ils ont les solutions et tout, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre, pourquoi pas. Mais sur notre propre vie, notre propre cadre légal, économique, juridique et politique, là, il n'y a plus personne qui pense. Moi, il n'y a eu qu'une seule réaction que j'ai entendue, c'était pendant la campagne électorale, c'était sur France Culture. Le directeur de la Maison des Artistes appelant à voter Sarkozy, eh ben, il n'y a qu'une seule artiste qui a appelé en direct, c'est Annette Messager, en disant qu'elle refusait systématiquement cette prise de position, que ce monsieur-là n'avait pas à exprimer une opinion politique au nom des artistes, parce que et je pense qu'il y a plus de 80% du monde artistique qui avait d'autres options politiques. Voilà, c'est la seule, une des rares réactions que j'ai entendues, mais il y en a d'autres, certainement. Mais bon, moi, je passe pas ma vie sur les médias aussi. J'ai plein d'autres choses à faire. Voilà, voilà, c'est mon paysage, ma vie, mon œuvre, mon histoire.
At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walk in to find you here, but as I look upon your face, I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I've known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out. Still in love with you, and so you left like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone's loving me. Go on, I go, walk out the door. I'm not a chain of little person, still in love with you, and so you left like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone's loving me. You don't wanna try to break me with your body. Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh, no, die.
Contemporain, vaste sujet, vaste débat, vaste problème. Moi, j'ai rien contre l'art contemporain, bien au contraire. D'ailleurs, je m'intéresse plus à l'art contemporain qu'à l'art classique, je dois dire. J'ai bien sûr, comme tout artiste, mon histoire de l'art dans la tête. Elle n'est pas particulièrement performante, mais elle n'est pas complètement nulle non plus. L'art contemporain, c'est quelque chose qui me passionne, alors c'est quelque chose qui parfois me déroute. Je pense être comme un certain nombre de gens et comme un certain nombre d'artistes aussi, à la fois en questionnement. Parfois j'ai des doutes, même souvent j'ai des doutes, mais Bon, moi, je fais l'effort de comprendre. Qui dit comprendre ne veut pas dire tout accepter. Moi, il y a des choses, même quand je les comprends, je me dis non, ouais, c'est pas mon truc. Maintenant, j'ai ma petite réflexion à mon petit niveau, avec ma petite formation et mes petits moyens intellectuels. Donc, j'appréhende ou j'appréhende pas. J'ai des mes manques, donc je peux me tromper. Mais c'est pas tellement l'art contemporain en lui-même. Moi, l'art contemporain, c'est quelque chose qui aussi avance avec ses avantages, ses inconvénients, ses défauts, ses qualités, ses techniques. Ce que j'aime moins, c'est le positionnement de l'artiste actuellement. Mais encore une fois de plus, c'est quelque chose... je fais peut-être une erreur, mais c'est... une certaine forme de starisation pour certains, et puis de dogmatisme, de politique officielle qui fait qu'à l'heure actuelle, un artiste doit absolument et forcément et obligatoirement penser le monde pour le monde, et c'est un petit peu lui qui détient la vérité. Et puis voilà, alors bon, ça peut être intéressant et opportun, comme ça peut être chiant, obscur et tout. Bon, moi, j'ai été acheté par un frac, j'appartiens à un certain nombre de collections publiques et privées. Et à travers tout ça, eh bien, évidemment, des pensées souvent divergentes, des oppositions de pensées et de... Et voilà, chacun il fait sa petite cuisine avec cette histoire-là. Moi, ce qui pourrait peut-être me défriser un petit peu, c'est le fonctionnement actuel qui fait que il y a plusieurs mondes dans le monde de l'art, mais il y en a un notamment qui est celui du monde des centres d'art, des fracs, qui aurait un petit peu tendance à s'imaginer comme seul au monde, et en tout cas être la pensée dominante. Alors, c'est un peu fort comme mot, mais il y a presque une certaine forme de totalitarisme de la part de certaines personnes, pas toutes, hein, parce que j'en connais aussi qui sont complètement ouverts et justement suffisamment humbles et ouverts pour s'intéresser à plein de choses et accepter même ce qui n'est pas dans leurs propres attributions et qui peuvent être dégagés du regard. Suffisamment allégé et aéré pour admettre que le monde de l'art aussi, il est complexe et que ce qui en fait sa force, son originalité, sa puissance et parfois ses défauts aussi, c'est sa diversité. Diversité des pensées, diversité des actes, diversité des techniques, diversité des opinions et diversité aussi de son système de philosophique et dans la manière de l'appréhender, de l'expliquer. Mais j'ai quand même rencontré au cours de mon parcours un certain nombre de gens qui au bout d'un moment finissent par devenir un petit peu des dieux vivants de la pensée et si on n'est pas comme eux, si on pense pas comme eux, et on est naze, on est con, et puis voilà. Et puis j'ai même entendu dire des gens que le public n'avait rien à voir dans le monde de l'art contemporain, qu'il n'avait pas sa place, que c'était pas nécessaire, et qu'on pouvait très bien faire notre cuisine entre nous, que c'était surtout ça qui était important. Alors pourquoi pas, ouais, moi je veux bien. J'ai rien contre, de toute façon, moi j'essaye d'être assez tolérant par rapport à tout ça, et moi je fais... Je prends mon propre positionnement, hein, avec beaucoup, une fois de plus j'insiste beaucoup, avec beaucoup d'humilité, parce que moi je ne connais pas tout, je ne possède pas tout, j'ai des manques et des trous partout, et donc forcément, mon appréhension, elle est avec mes propres moyens et à mon propre niveau. Voilà, sur l'art contemporain, à côté de ça, j'avoue prendre un plaisir énorme à aller me promener dans les expos. Je suis très curieux de nature, et puis voilà. Puis pour en parler de la danse tout à l'heure, j'avoue que la danse est un médium, un véhicule énorme pour s'intéresser à tout ce qui concerne l'art contemporain dans ses outils les plus pointus. La performance, l'installation, la vidéo, la musique, la richesse musicale dans la danse est énorme. Je fais référence à deux ou trois choses qui me passionnent dans la danse, notamment Pina Bausch, qui a été pour moi un élément déterminant par rapport à ma culture danse contemporaine, danse théâtre. Maggie Marin qui est très proche d'elle, Joseph Nadj, et puis bon, on va pas faire un inventaire de tout ce qui concerne la danse contemporaine. Mais pour moi, c'est un des arts les plus complets, c'est un des arts où les danseurs sont quasiment, enfin quasiment, sont suffisamment ouverts pour s'ouvrir à plein de choses, et souvent c'est des gens très sensibles, et moi je suis un petit peu comme ça aussi, donc voilà, je m'intéresse à tout si possible, dans la mesure de mes moyens, de mon temps et de mon niveau d'appréhension. Après c'est une question de pratique, de réalité de terrain, de rapport aux gens, de ça passe, ça passe pas, ça voilà. C'est ce que je regrette le plus dans le monde de l'art contemporain, souvent c'est plus de l'ordre de la posture, quoi. Il y a des postures obligées, des postures à la mode, il y a des discours à la mode, il y a des tenues à la mode, il y a un langage à la mode. Il y a un terme à l'heure actuelle, le mot pérenne est devenu à la mode. Voilà, pour prendre qu'un seul exemple. Ouais, bah oui, pourquoi pas, bon, pourquoi pas. Mais bon, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que ça soit pas accessible, parce que le mot n'est pas le bon mot, accessible. Moi, je comprends très bien qu'il y ait des choses qui soient absolument pas accessibles et qu'il faille faire un effort, et que de temps en temps, ça nécessite de se pencher un peu plus la question pour essayer de comprendre, et après pour se faire une opinion et un jugement et se dire, bah oui, ok, c'est pour moi, ou je comprends et je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ou je réserve mon pronostic, parce que voilà. Mais moi j'aime bien qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent dans tout ça. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un travail qui est à la fois, on va dire, qui se situe dans une forme traditionnelle quelque part, vraiment traditionnelle quand même assez loin, et quelque chose qui est de l'ordre de l'art contemporain. Et en fait, différents tissus, différents niveaux, différentes personnes issues de différents milieux sociologiques, économiques, intellectuels, et ben ils ont les moyens de se l'appréhender. Chacun, il fait ce qu'il veut avec cette histoire-là, et en tout cas, je rejette personne et je ne juge personne. Et c'est un petit peu cette attitude-là, moi, que j'essaye d'avoir. C'est un petit peu cette attitude-là que j'essaye de demander aux gens qui travaillent dans les centres d'art, notamment, parce que ou dans certaines galeries à Paris. Ça m'est arrivé d'entrer dans des galeries à Paris où rien que de voir la gueule qu'on portait sur moi, l'espèce de jugement factice comme ça, je tournais les talons. Et c'est dommage, parce que voilà. Alors bon, je sais bien, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est pas prêt de s'arranger. C'est dommage, mais j'aime pas l'exclusion, et l'exclusion pour moi c'est aussi très politique à l'heure actuelle. De plus en plus de gens sont exclus de tout un tas de choses, et moi j'admets pas qu'on les exclue du monde de la culture et du monde de l'art contemporain, parce qu'il y a des exemples qui ont prouvé que, je pense à ce musée, ce centre d'art contemporain en région parisienne, où les habitants du quartier se l'ont approprié, et pourtant face à eux il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes d'accès. Mais ils se l'ont approprié, ils en sont fiers, ils sont contents, et puis voilà, c'est un... Comme quoi, tout est possible dans le dialogue, dans l'échange, dans la manière d'amener les gens à comprendre. C'est pas le rejet, ça sert à rien, la posture qui implique qu'on est au-dessus de tout le monde et que c'est pas pour nous, c'est pas pour vous, voilà, de toute façon machin, Non, moi ça c'est pas moi, c'est une certaine forme, j'aime pas cette intolérance là et c'est dans l'art contemporain, c'est ce que je regrette le plus, c'est l'intolérance de certains. Pas la majorité, mais une minorité quand même qui a un peu tendance à avoir pris le pouvoir intellectuel et
qui essaye de faire un peu régner sa loi, et moi ça me gave quoi. Après le reste, c'est un sujet tellement vaste, tellement long, tellement insurmontable que de toute façon, en plus, c'est pas prioritaire. Hein. D'ailleurs, la dernière campagne, on n'a jamais parlé du mot culture, et puis les gens, mot culture, c'est. Voilà. Hein. Bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, parce que ça serait le sujet d'une prochaine émission, peut-être avec d'autres gens pour en débattre, parce que moi, je ne veux pas débattre tout seul de quelque chose. Parce que ce qu'il y a bien dans l'échange et dans le dialogue, justement, c'est l'altérité, c'est-à-dire plusieurs manières de voir les choses. C'est ce qui fait que les choses sont constructives. Moi, je suis un peu tout seul, là, dans mon monologue, tout de suite, le jour baisse, bientôt il va faire nuit. Et donc le sujet sur l'art contemporain, écoutez, je vous renvoie à toutes les littératures du monde entier pour aborder ce problème, vaste problème. En tout cas, moi, je sais que personnellement, je suis une fois de plus et je suis une fois de plus sur la frontière et que l'on me met, enfin, on me met pas, mais je me situe sur la frontière entre. De l'art contemporain, j'appartiens au monde de l'art contemporain sans y appartenir, et après tout, pourquoi pas, c'est pas plus mal, c'est vachement bien. Moi, j'ai une spécificité dans mon travail, j'espère une certaine forme d'originalité, et pour moi, le plus important, c'est qu'on y adhère, on s'y intéresse, et que ça crée échange, rapport, dialogue, communication, et puis que moi je puisse continuer à bosser, et puis c'est très bien comme ça, quoi. Voilà, tout ça. Le reste, je vous laisse.
être artiste, est-ce une passion, un travail ou une maladie? Je répondrai que c'est tout ça à la fois. Hein. Être artiste, c'est une passion, ça c'est clair. Je crois que je l'ai assez démontré par tout ce que je viens de dire. Hein. Parce que passion à l'intérieur de son travail, à l'intérieur de son atelier, et à l'extérieur de son atelier, dans ses rapports et dans ses pensées, dans ses jugements, dans son positionnement, c'est de l'ordre de la passion. Du travail, ouais, ça c'est clair, en tout cas pour moi, ouais, c'est du travail. Et moi je suis un travailleur, alors par contre je suis quelqu'un qui travaille, et si on peut peut-être me reprocher de ne pas avoir un travail productif et rentable, moi je bosse et je défie quiconque quand il voit mon travail de me prouver le contraire. Je crois que le travail il parle en lui-même, il y a du boulot et il y a du boulot par tous les temps. Je suis dans un atelier qui a pas de chauffage et je peux vous assurer que j'y reste 6 à 8 heures par jour l'hiver, et que c'est là que je me rends compte que c'est du travail, que c'est une passion et que c'est aussi une maladie, que c'est une grosse névrose quelque part. Après un transfert, je sais pas moi, en tout cas oui, c'est de l'ordre de la maladie aussi. En plus il se trouve que mon travail traite aussi quelque part de la maladie, une certaine forme de maladie, oui. Puisqu'on est encore une fois de plus, il y a un rapport à la chirurgie, un rapport à la couture, à la suture, il y a aussi ce rapport à la maladie, donc maladie à l'intérieur du travail, maladie traitée dans le travail, suggérée en tout cas, et maladie parce que des fois on n'est pas dans son atelier ou on n'est pas dans son travail, et puis qu'on s'aperçoit que malgré tout on a la tête qui traîne du côté de son travail, et puis alors on peut y trouver des milliers de raisons, hein. Il y en a certains qui disent que la création provient du manque à jouir, et les mêmes diront que la jouissance par définition est éphémère. Donc comme il y a des liens très forts entre tout ça et le domaine de la création, de ce que c'est que l'acte créatif, oui, c'est une maladie. C'est une maladie qui est pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de tristesse, pleine d'abandon, pleine de névrose, et en même temps ce n'est pas que ça non plus, parce que même si ça en fait partie, on ne traite pas que sa maladie et on n'étale pas ses tripes comme ça au vu du monde en disant ben voilà c'est mes tripes maintenant, ça vous plaît pas. Moi je pense pas que j'étale mes tripes, en tout cas il n'y a pas que ma vie, je montre pas ma vie, j'essaye de trouver quelque chose. S'il y a une maladie dans mon travail, c'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais qu'elle touche quelque chose d'un peu universel, intemporel. Mais bon, ça, c'est pas à moi à le dire ou à le juger. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire ne pas raconter que mon propre machin et puis l'imposer aux autres. Je sais pas, en tout cas, pour l'instant, tous les gens qui voient mon travail, c'est pas le reproche qu'ils me font, au contraire. Je pense plutôt, non, je pense que tout le monde y prend un petit peu pour lui-même là-dedans, ça veut dire que j'ai pas tout à fait tort, hein, que je suis peut-être sur la bonne voie. Donc oui, passion, travail, maladie, et puis il y a aussi combler le temps qui passe, hein. Quelque part, il faut bien faire quelque chose, comme dirait l'autre. Moi, j'ai choisi d'être artiste. Donc voilà, c'est tout ça, et puis c'est plein d'autres choses, et puis c'est une poésie aussi, et c'est la poésie. Et dans mon travail, il y a de la poésie, tout à fait, ouais. Donc c'est aussi une certaine forme de poésie, et qui dit poésie dit souffrance, douleur, joie, bonheur, j'en passe des meilleurs, et puis de temps en temps c'est bien, ça c'est un rapport personnel que j'ai, c'est de temps en temps de partir en bateau et puis de se retrouver au milieu de l'océan et puis relativiser devant l'immensité sur un bateau dans le vent avec des vagues et de se dire tout ça quoi. Tout ça quoi.
Voilà, ça tangue. Bâbord, tribord, droit devant, et puis on verra bien, quoi. Mais voilà, passion, travail, famille, patrie.
La dimension érotique sexuelle de mon travail, oui, elle est évidente. Ouais. Elle est déjà évidente, ne serait-ce que si je prends... On a 1, 2, 3, 4... On a 5 boulots devant les yeux. Il y en a un qui a la forme d'un vagin, l'autre d'un sexe en érection, un troisième qui est plutôt de l'ordre de la membrane. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on a un peu évoqué dans le travail, mais il y a un côté très membrane dans mon travail, et il y a un côté très membrane intérieure d'ailleurs, parce que même s'il y a une enveloppe extérieure qui est évidente et que l'on voit à travers l'enveloppe extérieure, on aperçoit l'enveloppe intérieure. C'est comme si on avait fait un scan. Et le tout a une dimension extrêmement érotique, très très sexuelle. Mais moi, il y a une connotation très sexuelle dans mon travail, de toute façon, que je n'évacue pas du tout, bien au contraire. Alors évidemment, parfois, vis-à-vis de certaines personnes, c'est difficile à le dire, à l'énoncer comme ça, un petit peu brutalement. Certaines doivent le penser, mais n'osent pas le dire ou poser la question. Et puis parfois, dans le cours de la conversation avec des gens, oui, ça vient sur le papier, parce que forcément, de toute façon, c'est assez évident. Mais bon, moi, je suis un mec, j'adore faire l'amour. je suis pas un obsédé, hein, loin s'en faut. Mais j'ai rien contre du tout. C'est quelque chose qui est présent, ouais. C'est quelque chose qui est extrêmement présent. Alors après, ça rejoint aussi l'amour et le sentiment, hein. C'est donc c'est pas tout douceâtre, c'est pas tout paradisiaque. C'est aussi mordant, piquant. Tout le monde connaît les histoires d'amour, hein. Chacun arrive avec sa valise, et quand il débarque sa valise, chacun amène ses clous et ses instruments, hein. Et après, on s'y pique, on s'y frotte, qui s'y pique s'y frotte, et puis on s'y fait mal, et puis on y jouit, et puis voilà. Donc, tout à fait, ouais. Mais ça, j'invite les gens à venir dans mon atelier pour le constater. J'évoque cette question-là parce que cette question-là m'a été posée, et elle me l'est posée parce que la personne qui me l'a posée, il a aussi le travail devant les yeux, donc il a dû y penser lui-même. Mais d'ailleurs, j'ai un boulot, je sais pas si je viens pas de le dire, qui s'appelle Vagina, quoi. Y a aussi le caractère, de la maladie sexuelle qui peut être aussi inscrite dans ce travail-là, de même la chirurgie au niveau de la sexualité. Mais bon, là, voilà, quoi. Maintenant, ouais, oui, bien sûr, ouais, faire l'amour. Super. Je n'ai pas de fantasme particulier, je les ai tous en même temps, quoi. Mais je pense comme tout le monde, ou en tout cas comme beaucoup de gens. Puis bon, moi je viens d'une génération 70, les années 70. Donc la génération avant le sida. La génération qu'on pourrait dire qu'on a appelé de liberté sexuelle complète, ouais. Et je crois que de ce côté-là, ça va, j'ai un bon parcours. J'ai multiplié les expériences, les découvertes, les échanges. Voilà, ouais, c'était une génération, c'était sympa, c'était marrant. Elle est finie, ça n'existe plus. Maintenant, voilà, c'est autre chose, c'est autrement. Avec d'autres résonances et d'autres maladies. Et les maladies dont on parle à l'heure actuelle, issues notamment de l'activité sexuelle, comme le sida, il y a dans mon travail aussi des choses qui sont de l'ordre du virus, hein, de la maladie. Il y a des choses qu'on peut très bien... elles ont un aspect, mais on peut faire un transplant et s'apercevoir qu'elles peuvent être aussi du rapport maladie. Alors c'est pas que la maladie liée au sexe, c'est la maladie en général aussi, hein. Mais j'en parle souvent, je dis que mon travail c'est une chirurgie plastique et une histoire de cul. Souvent, quand au bout d'un moment je suis un petit peu fatigué aussi d'expliquer toujours tout le temps. Je réduis ça, j'ai une conclusion comme ça, c'est chirurgie plastique et histoire de cul, quoi. Alors, voilà, je pense que c'est assez clair, c'est assez net. Et alors, en plus, comme on a des vêtements qui sont devant nous, qui sont à la fois, qui cachent et qui, en même temps, sont transparents, on a encore une fois de plus une autre dimension à l'intérieur du travail, qui est la dimension de l'érotisme, des choses qui peuvent... Oui, il y a une dimension érotique, il y a quelque chose qui cache, mais en même temps qui dévoile, qui montre et qui suggère. Et puis, à l'intérieur, il y a des pleins, mais qui sont vides et voilà, et voilà, voilà quoi, chirurgie plastique, histoire de cul. Ouais, donc en musique, eh ben, moi j'écoute de la musique, mais j'en écoute des tonnes et j'en écoute de tout. Je suis pas fermé du tout. Ça va du jazz en passant par le folk, le rock, la musique électronique, classique, patati patata. Et là, pour finir tout ça, ben moi j'ai choisi assez rapidement. Au milieu de tout ça, en fait, un morceau d'un disque de Current 93. Et le morceau que j'ai tiré, c'est un double album, c'est The Return to Your Health. Excusez-moi pour mon anglais. Pourquoi j'aime ce morceau-là ? Parce que à la fois il y a toute l'étrangeté, un petit peu baba cool, mystique, halluciné, folk, strange, qui se dégage de cette musique. Petite balade sympathique dans la sonorité et en même temps qui est un peu comme mon travail, étrange, à la fois douce et dérangeante, un petit peu comme d'ailleurs l'univers de Current, qui est un univers très très particulier et qui ça me fait penser à ce qu'on écoutait quand on était dans les années 80, où moi je faisais partie des mouvements alternatifs et notamment d'une radio alternative d'extrême gauche. Toutes ces musiques Psychic TV, Frobin Gistel, qui étaient à la fois, on va dire, punk dans l'esprit, et baba cool aussi, quelque part, et qui faisaient ces musiques un peu frontières, un peu sur le bord du gouffre. J'aime bien ça, j'aime bien ce côté-là, c'est un petit peu... J'aime bien le folk aussi, notamment le folk irlandais. Et là-dedans, il y a des sonorités irlandaises, et puis il y a la voix étrange du chanteur dont je prends le nom, là, et puis je m'en tape. Tout de suite, en tout cas, parce que j'ai pas le temps d'aller le chercher. Et voilà, j'ai choisi ça pour finir l'émission. J'aurais pu choisir plein d'autres choses, mais j'ai choisi ça, et puis voilà, quoi. Hein, je vous le donne, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt. Thank you.
serpents come. They cover the Christ thorn, two heads and cockheads. Serpents' feet are the motion, lidded eyes and smudged reality. Everything has two faces. One is earthly, without true form. The other blackened and blackening. Mother is in the fields. Father's in the fields. You know well its tortured form. It's locked within a particular place. It's locked within a particular form. It's jailed by a falling light, with angles, shapes and size. It's held by two up. It's held by three place. It's a name that has no name. Mother is in the fields. Father's in the fields. It's a form creating formless. Formless creating form. Oh, four towers, read them backwards. Do not spell the sound. Do not move to their lies. Speak the words and they create the universe and they destroy all universe. Mother is in the fields. Father's in the fields. Heavy-lidded eyes do not mask the pain. They shade us from the burning light. Listen, one face, one form, one truth. I see it through the staining glass. I see it fractured in the world. This is not true. It's appearance only. Mother is in the fields. Father's in the fields.